Comme chaque premier mercredi de mois, nous nous retrouvons sur Fréquence 7, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour l'émission Clair d'étoiles. L'émission d'aujourd'hui, qui est la dernière de la saison, vous est présentée par un duo de Françoises de l'association Clair d'étoiles et Brin de Jardin.
Bonjour. Bonjour.
Comme tous les mois, nous ferons le tour du ciel en présentant ce qu'il sera possible d'y voir à l'œil nu dans le mois qui vient, puis nous poursuivrons par un focus consacré à la constellation du dragon. Nous vous annonçons aussi que l'association proposera à Chassier la 23e édition de la Nuit des étoiles. Il y aura 3 soirées, les 5, 6 et 7 août à l'école primaire de Chassier. Au programme, observation du ciel et exposition de photos astronomiques de l'Observatoire européen austral, ESO. Le nombre de places étant limité, les inscriptions auront lieu en ligne cette année sur le site de Claire d'Étoiles et Brin de Jardin à partir du 14 juillet. clairedetoiles-brindejardin.info. Mais en attendant, Françoise, que pourrons-nous voir dans le ciel au cours de ce mois de juillet? Et d'abord, quelles sont les conditions d'observation du ciel?
Alors, avec l'été dans sa toute puissance, le soleil brille et brûle de longues journées. En ce début juillet, les crépuscules sont les plus longs de l'année. Les nuits sont courtes et la nuit noire qui débute très tard, aux alentours de 23h30, ne dure que quelques heures, car déjà vers 4h du matin, les premières lueurs de l'aube teintent l'horizon est d'un voile clair.
Oui, d'ailleurs, pour prévoir les meilleures heures d'observation du ciel étoilé, les éphémérides d'astronomie distinguent 3 temps de crépuscule selon l'angle du soleil sous l'horizon, mesuré en degrés. Le crépuscule civil, le crépuscule nautique et le crépuscule astronomique. Lorsque le soleil est situé entre 0 et 6 degrés sous l'horizon, c'est le crépuscule civil. Les planètes et les étoiles les plus brillantes apparaissent et il subsiste encore suffisamment de lumière pour que la plupart des activités puissent se poursuivre. Entre 6 et 12 degrés sous l'horizon, c'est le crépuscule nautique ou le début de la tombée de la nuit. D'autres étoiles deviennent visibles et en mer, l'horizon est toujours perceptible. Enfin, lorsque le soleil atteint entre 12 et 18 degrés sous l'horizon, c'est le crépuscule astronomique ou le début de la nuit noire. Les étoiles les plus faibles sont alors visibles à l'œil nu.
Et les premières étoiles qui apparaissent sont toujours Arcturus, de couleur légèrement orangée, et puis la brillante Vega, de couleur blanche. Elle est visible en direction de l'est et montre nuit après nuit davantage pour atteindre le zénith à la fin du mois et pendant tout l'été. Plus basse et formant un triangle avec Vega, les étoiles Deneb de la constellation du Cygne et Altaïr de l'Aigle sont maintenant bien visibles dès le crépuscule à l'est. Ce sont les 3 belles de l'été. Et puis il y a la rougeoyante Antares du Scorpion qui se lève au sud. C'est une très belle étoile du ciel d'été.
Le Scorpion, ma constellation préférée de l'été. Mmh. Et du côté des planètes, on a beaucoup entendu parler du grand alignement le mois dernier. Les planètes du système solaire, visibles à l'œil nu, étaient présentes le matin à l'aube dans leur ordre d'éloignement du Soleil et alignées de gauche à droite à partir du nord-est, de la plus basse à la plus haute dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Qu'en est-il pour le mois de juillet? Les verra-t-on toujours?
Oui, on les verra toujours à l'aube en juillet, du moins concernant Vénus, très brillante, Mars, Jupiter et Saturne. Les 3 premières apparaîtront toujours alignées, Vénus de plus en plus basse sur l'horizon nord-est et Mars et Jupiter plus hautes dans le ciel. Quant à Saturne, la planète la plus à droite, elle n'apparaîtra plus alignée car elle sera plus basse que Jupiter.
Et du côté de la Lune?
Le 7 juillet, ce sera le premier quartier de Lune et elle se trouvera pas très loin de l'étoile Spica de la Vierge. Le 13 juillet, ce sera la pleine Lune et elle sera au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, soit à environ 350 000 km de notre planète. On l'appelle alors Superlune car la taille apparente de notre satellite augmente de quelques degrés. Mais cette différence est imperceptible à l'œil nu. Le 16 juillet, en milieu de nuit, la Lune sera en conjonction avec Saturne, au sud-est, ce qui permet d'identifier la planète aux anneaux. Saturne se lèvera de plus en plus tôt, et à partir de fin juillet, on pourra la voir avant minuit, toujours dans la direction du sud-est.
Et quand sera-t-il possible d'observer Jupiter, la géante gazeuse de notre système solaire ? Je veux dire, sans avoir besoin de se lever à l'aube.
Eh bien, mi-juillet, Jupiter sera visible en milieu de nuit, à l'est, vers 2h du matin. Et même Mars, qui se lèvera tout juste. Mais il faudra attendre début août, pour la nuit des étoiles à Chassier, pour commencer à voir Jupiter avant minuit. Avec une bonne paire de jumelles et les coudes stabilisés sur un support, on peut même distinguer les 4 satellites principaux de Jupiter. Ce sont des petits points brillants de part et d'autre de la planète.
Et y aura-t-il des étoiles filantes dans le ciel de juillet ?
Oui, il faut regarder en direction du sud-est, dans un ciel sans lune, pour voir les étoiles filantes de juillet. On les appelle les Delta Aquarides et les Capricornides, car elles semblent venir de la région des constellations, du Verseau et du Capricorne.
Alors, le meilleur moment pour tenter de voir les étoiles filantes de ces essaims-là, c'est donc entre le dernier quartier et la nouvelle lune, entre le 20 et la fin juillet, voire jusqu'à début août, car le ciel sera suffisamment noir pour percevoir la trace lumineuse de ces petits fragments de comètes qui s'échauffent en traversant l'atmosphère terrestre. Mais il est temps de passer à notre focus. Ce mois-ci, Françoise, tu avais envie de nous parler de la constellation du dragon et de nous raconter sa légende d'après les Grecs. Mais d'abord, comment identifier le dragon ? Dans quelle région du ciel se situe-t-elle ?
Le dragon est une constellation circumpolaire, c'est-à-dire qu'on peut la voir toute l'année. Elle semble tourner autour de l'étoile polaire et donc elle ne disparaît jamais sous l'horizon. Ces étoiles ne sont pas très brillantes, mais on les distingue suffisamment. La constellation du dragon ressemble à un grand serpent qui s'étend entre les deux ours. Le dragon a sa queue au niveau du manche de la casserole et son long corps se poursuit en contournant la petite ours. La tête du dragon forme un trapèze avec 4 étoiles plus brillantes. Elle est au pied de la constellation d'Hercule, non loin de la très brillante Véga.
N'est-ce pas dans le dragon que se situe une étoile particulière qui aurait été notre étoile polaire dans des temps très anciens ?
Oui, c'est l'étoile Tubane, qui signifie d'ailleurs serpent en arabe. C'est la 3e étoile en partant de la queue du dragon vers la tête. Cette étoile Tubane a été l'étoile polaire lors des constructions des plus belles pyramides par les Égyptiens.
Et dans la mythologie grecque, le dragon est le gardien des pommes d'or qui se trouvent dans le jardin des Hespérides, les filles de la nuit. Et le jardin des Hespérides, dans l'histoire, c'est la région du soleil couchant à l'ouest, où le soleil disparaît chaque soir au bord du fleuve Océan.
Ces pommes d'or avaient été offertes par Gaïa lors du mariage d'Héra et de Zeus. Ce sont donc des pommes magiques, trésors de la terre-mère au couple suprême des dieux. Le dragon, gardien du jardin des Hespérides, et l'adversaire, Héraclès, Hercule pour les Romains, devra vaincre s'il veut y avoir accès. Tel est en tout cas le 11e travail qu'Hercule devra accomplir, voler 3 pommes d'or du jardin des Hespérides. Cette épreuve est inspirée par la déesse Héra, qui n'en finit pas de poursuivre de sa haine le fils de Zeus. Car Héraclès est le fils que Zeus a eu avec une mortelle, Alcmène, pour donner au monde un fils héroïque, bienfaiteur des hommes. Pour accomplir son destin, Héraclès se met en route vers le couchant et les limites occidentales de la Terre. Le héros, malgré sa force et son courage, sait pourtant qu'il ne peut affronter seul le dragon. Ce monstre aux larges écailles luisantes, noires et jaunes, est trop fort, avec ses 100 têtes hurlant de 100 voix. Alors qu'il approche du jardin des Hespérides, il rencontre Atlas, qui se tient au sommet d'une haute montagne. Le géant aux formes puissantes, tel un arbre au fût épais et droit, tient le ciel et ses étoiles écartées de la terre. C'est Zeus qui l'a puni pour avoir pris part, jadis, à la révolte des titans contre les dieux. Il a condamné Atlas à demeurer debout et immobile devant les Hespérides, aux bornes de la terre, et à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel. Alors, Héraclès médite des paroles pleines de ruse pour convaincre le titan de combattre le dragon à sa place et de ramener 3 pommes d'or. Atlas, Petit-fils de la terre et du ciel, tu t'acquittes ici d'une lourde charge et ta tâche est bien dure à assumer. Mais sais-tu qu'il existe une épreuve bien plus dure à surmonter? Celle d'affronter les Hespérides et le dragon, gardien des pommes d'or. Regarde ma force et mon courage. Je pourrais tenir la voûte céleste à ta place pendant que tu défieras en combattant le dragon et en dérobant trois fruits d'or. Le titan est séduit par ces mots et non mécontent de se soulager de sa charge qu'il porte depuis plusieurs milliers d'années, il laisse à Héraclès le soin de porter le ciel à sa place. Atlas part combattre le dragon. En trois pas de géant, il atteint le jardin des Hespérides et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il tue le dragon en lui brisant la colonne vertébrale. Quand il revient victorieux avec les trois pommes d'or, Héraclès se sent ses forces faiblir sous le poids immense de la voûte céleste. Il doit cependant convaincre Atlas de reprendre sa place. Sinon, les colonnes du ciel vont s'effondrer et le chaos régnera à nouveau dans l'univers, sur les dieux et les hommes. Atlas, titan victorieux, tu as défié les dieux en volant les pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Tu as tué le dragon. Ton destin est inouï, unique. Tu as une place de choix dans l'histoire de la création. Moi, je ne suis qu'un demi-dieu né de Zeus et d'une mortelle. Le poids du ciel n'est pas stable sur mes épaules d'apprenti. Montre-moi par l'exemple comment bien disposer mon corps pour tenir la charge. Peut-être même me faudra-t-il un coussin pour protéger ma nuque de ce terrible poids. Héraclès se tait, le cœur serré par l'angoisse. Et voici qu'Atlas, adouci par ce discours flatteur, remplace le héros sous les colonnes du ciel. Fièrement, il montre la pose, gonfle les biceps. Il reprend sa place, il reprend sa charge, libérant Héraclès de son funeste destin. Celui-ci reprend alors confiance. Il s'écarte, ramasse les trois pommes d'or et se met à courir loin d'Atlas, loin du dragon et loin du jardin des Hespérides, les filles de la nuit. C'est seulement une fois les pommes d'or volées et ce travail accompli qu'Héraclès a pris place dans la voûte étoilée. En effet, Zeus, jugeant l'épreuve digne de mémoire, a placé la représentation d'Héraclès, Hercule, parmi les constellations. Héra, furieuse de la mort du dragon, l'a saisie et l'a clouée près de l'axe du monde, où il serpente désormais entre les constellations de la Grande et de la Petite Ours. Dans une dernière contorsion, il gît inerte, sa tête au pied de la constellation d'Hercule, qu'il a vaincue. Quant aux pommes d'or, trésor des dieux, elles ont finalement été remises par Athéna, dans le jardin des Hespérides, par-delà le fleuve océan. Et avec un peu d'imagination, on peut les voir encore briller certains soirs sous les feux du soleil couchant.
Merci Françoise. Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine sur les ondes de fréquence 7 et pour la nuit des étoiles des 5, 6 et 7 août à Chassier, n'oubliez pas de réserver en ligne sur le site de Claire d'Étoiles et Brin de Jardin.
Et un bel été à tous !